Charge de Next.
The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.
Ils sont 40, 40 entrepreneurs, 40 champions de la tech française. Comment sont-ils arrivés là? À quels enjeux font-ils face? Quels sont les ressorts qui les ont forgés? Je suis Thomas Benzazon, cofondateur du Brain Studio Feuille Blanche, et avec mon compère Olivier Mathieu, cofondateur de Price Minister et France Digital, nous vous plongeons dans l'univers de ces entrepreneurs d'exception et les coulisses du Next 40. Ils répondront à nos questions, à celles d'invités surprises, tout comme à nos partenaires que sont La Tribune, Madinès, France Digital, La French Tech et Neuflys OBC. Vous en voulez plus? Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. On se retrouve donc dans 40 nuances de Next, toujours avec mon compère Olivier Mathieu. Salut Olivier.
Salut Thomas, ravi de vous retrouver à nouveau.
Et un nouvel entrepreneur du Next 40 aujourd'hui encore. Peux-tu nous en dire un mot?
Absolument. On a le plaisir de rencontrer Julien Hervouet, donc salut Julien.
Salut Olivier, salut Thomas.
On est ravis de te recevoir, tu es un de ces entrepreneurs « successful », comme on dit en anglais, du Next 40. Alors je rappelle que ta société, e-Advise, a été fondée en 2010. Vous avez annoncé une levée de fonds de 32 millions d'euros en 2017. Il y avait, je crois, eu préalablement 14 millions d'euros levés en 2015 et je crois un premier tour... ce qu'on appelle un peu de seed money de 1 million d'euros en 2013. Donc ça doit faire 47 millions d'euros si mes comptes sont bons, levés depuis le début, mais tu pourras me corriger. Donc e-Advise, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une plateforme de marketing relationnel ou conversationnel à travers des outils de chat ou de messaging. Tu pourras nous expliquer un peu plus ce que c'est. Je crois que vous avez été motivé au départ pour rajouter un peu d'une touche humaine, la human touch à l'intérieur de la relation client. Et c'est ce qu'on lit sur vous, et vous avez donc un storytelling. Alors on essaiera de gratter un petit peu sur ce vernis-là. C'est aussi évidemment un outil qui peut maximiser les revenus et le commerce auprès de vos clients. Alors vos clients, c'est 2000 marques dans 100 pays. Je crois que vous avez signé un premier gros client en 2012 qui était la FNAC. Depuis évidemment, il y a un point très important aussi qui est original chez e-Advise, c'est que vous êtes basé à Nantes. Et beaucoup des entreprises du Next 40 sont quand même encore à Paris. On connaît le problème de surcentralisation, d'hypercentralisation de la France. Donc c'est intéressant aussi de voir les forces et les avantages qui peuvent être dans cette idée d'être non pas à Paris, mais en province. Je crois que donc en plus de Nantes, vous êtes aussi en Allemagne, en Angleterre, en Espagne et aux USA. Je crois que vous êtes à Boston. Vous avez aussi lancé la plateforme IBU, donc c'est cette communauté d'experts qui peuvent être rémunérés aussi par les marques pour répondre aux clients et donc aussi pousser les clients à mieux transformer les consommateurs. Ça sera aussi intéressant que tu nous dises ce que vous avez fait, parce que vous avez aussi proposé des services pendant cette crise. Et donc on pourra un petit peu élaborer là-dessus. Et je crois que vous comptez aujourd'hui près de 230 salariés. Voilà, est-ce que tu confirmes un petit peu cette fiche signalétique?
Merci pour cette présentation et cette introduction. Oui, dans la très large majorité des éléments qui ont été présentés, décrits. La FNAC, ça a été signé en 2010, année de création d'e-Advise. Et effectivement, ça a été le tremplin, la référence dont souvent les startups ont besoin pour réussir à se lancer.
Très bien.
Il y a une question qu'on ne pose jamais, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, aux entrepreneurs du Next 40, et c'est toujours intéressant quand on observe vos réussites actuelles, de se projeter aussi au départ, donc 2010, l'année où vous signez la FNAC. Est-ce qu'on peut parler du chiffre d'affaires de la première année qui est un premier marqueur?
Le chiffre d'affaires de la première année est relativement faible. Il est de 50 000 euros. Et sur notre première année de commercialisation, puisqu'en fait la première année, elle a été véritablement centré sur le go-to-market, le fait de réussir à trouver un marché, une offre, un modèle économique, de commencer à l'éprouver et convaincre nos premiers clients. La première année de commercialisation, à proprement parler, en 2011, on a réalisé 500 000 euros de chiffre d'affaires et on avait atteint l'équilibre. Voilà, c'était la deuxième année d'e-Advise, 2011.
Et alors, ce qu'on ne dit pas, en tout cas ce que je présume, c'est que le pitch qu'a pu en faire Olivier n'était évidemment pas le même. Je te propose de revenir sur les débuts d'e-Advise. D'ailleurs, est-ce qu'on dit e-Advise, i-Advise?
On dit i-Advise, je conseille en anglais.
pitch, oh mon pitch. Pitch, oh mon pitch.
Alors le pitch en 2010 d'iAdvice, c'était quoi? Parce que j'imagine qu'on ne parlait pas de commerce conversationnel.
Alors non, on ne parlait pas de commerce conversationnel, surtout pas, puisqu'en fait d'ailleurs, l'humain et la composante humaine étaient très très éloignés du sens premier du e-commerce, avec une vision justement très self-service, où les clients sont des adresses IP, des numéros de carte de crédit, du trafic, mais finalement surtout pas des humains. Donc on ne parlait pas de commerce conversationnel, on ne parlait pas non plus de messaging, on parlait de click-to-chat. Et le premier pitch d'iAdvice, c'était un pitch centré sur le fait d'exaucer les souhaits des visiteurs pour les transformer en clients. On s'était d'ailleurs doté d'une mascotte qui était un génie avec un petit côté bonhomme Michelin au service des visiteurs. Et l'idée, c'était de pouvoir faire apparaître cette petite fenêtre de chat et de pouvoir engager la conversation avec quelqu'un, une vraie personne en chair et en os, à qui on pouvait poser n'importe quelle question dans l'espoir d'obtenir la réponse, le conseil avisé ou l'aide dont on pouvait avoir besoin pour faire aboutir son achat.
Le sujet à l'époque, c'était que la techno n'était pas encore utilisée. Il fallait faire de la pédagogie déjà sur la techno avant d'y rajouter cette brique humaine.
Le sujet à l'époque, c'est qu'en fait, l'équation du e-commerce, elle est assez simple. Elle est basée sur trois paramètres. Le trafic, le taux de conversion, donc la part de ce trafic qu'on convertit, et le panier moyen, donc le montant moyen finalement acheté par ceux qui convertissent. Et qu'à l'époque, le paramètre sur lequel les entreprises travaillaient principalement, c'était le trafic. Voilà. L'enjeu, c'était l'acquisition de trafic. Et finalement, on considérait que le taux de conversion qui, à l'époque, était entre 1 et 2%, donc on convertit entre 1 et 2 visiteurs en clients. On ne peut pas imaginer avoir ces niveaux de conversion dans le commerce physique, sans quoi la plupart des commerçants mettraient la clé sous la porte. Voilà. Finalement, c'était devenu une constante. Voilà. C'est comme ça. C'était 1, 2%. Et ce sur quoi il faut travailler principalement, c'est l'acquisition de trafic. Et nous, on arrivait avec une vision centrée sur justement l'amélioration du taux de conversion et l'augmentation du panier moyen, qui sont ces deux autres paramètres, en disant, mais finalement, la dimension et la composante qui manque dans le commerce en ligne, c'est cette dimension humaine, c'est cette dimension relationnelle, c'est la conversation qu'on vient chercher dans le magasin, c'est le conseil, c'est la capacité de pouvoir parler aussi parfois d'autre chose que du produit, de parler de sa pratique, de son usage, de ses retours d'expérience, etc.
Finalement, c'est un peu l'équivalent du vendeur que tu vas rencontrer dans le magasin, dans les rayons, et qui va pouvoir te conseiller.
Oui, exactement. C'est le vendeur, mais le vendeur, en tout cas, idéalisé. C'est-à-dire celui qui est véritablement passionné, expert de son sujet, et qui n'est pas uniquement là pour te refourguer sa camelote ou te sauter ou te mettre le grappin dessus au moment où tu n'as pas du tout envie qu'il le fasse.
Ou pour te vendre le contrat d'assurance en plus, etc.
Voilà. Non, c'est plutôt la boutique spécialisée dans laquelle tu vas te rendre, qui en général est tenue par quelqu'un qui est passionné, expert de son domaine, et qui va pouvoir te partager à la fois son expertise, sa passion, mais aussi bien évidemment te conseiller avec beaucoup d'authenticité sur le produit que tu cherches et le rêve que tu souhaites réaliser.
Parce que je lisais un peu en préparant ton émission la thèse d'investissement de tes investisseurs. Donc je rappelle qu'il y a Idinvest, BPI et aussi Quadrille. Et j'ai lu ou discuté sur le thème qui avait finalement un enjeu spécifique que tu viens de décrire, qui est le coût d'acquisition des clients, effectivement, qui est directement corrélé. Alors là, on est des termes un peu techniques marketing, j'essaie de les vulgariser, mais qui est corrélé à ce taux de transformation. C'est-à-dire qu'on paye des clics, on paye des visiteurs qui arrivent sur notre site de e-commerce, par exemple. Il y a ce taux de transformation et une des résultantes, c'est qu'il y a un coût d'acquisition par client qui est de plus en plus élevé parce que les canaux d'acquisition, les Google, les Facebook, coûtent de plus en plus cher. Et donc, il me semblait qu'eux, ils ont acheté effectivement cette thèse-là. Et alors, en quoi tu fais baisser le coût d'acquisition Est-ce que c'est parce que finalement, grâce au marketing conversationnel, tu permets de garder des clients plus longtemps plutôt que de racheter sans arrêt des nouveaux clients ?
Oui, c'est une très bonne question. Alors, on ne va pas faire diminuer le coût d'acquisition à proprement parler, mais il y a un ratio qui est beaucoup regardé dans l'industrie du e-commerce, qui est le ratio CAC sur LTV finalement. Et la LTV, c'est lifetime value. Voilà, mon client... mon objectif, c'est pas...
Donc, lifetime value, c'est la valeur du client sur la durée.
Exactement.
Combien de fois un client va revenir, combien de fois il va réacheter, et finalement, au global, combien il va générer de marge pour le commerçant.
C'est un, chercher à maximiser la durée de vie du client, hein, qui reste client le plus longtemps possible, et effectivement, d'optimiser et d'augmenter l'occurrence d'achat et les montants d'achat. Voilà. Donc, c'est la valeur de mon client. Et finalement, on cherche à la maximiser et la rendre nettement supérieure, 3, 4, 5, 6 fois supérieure à mon coût d'acquisition. Voilà. Et parmi les facteurs et les critères qu'on a pu observer, on observe un impact très significatif sur l'augmentation de la LTV pour un visiteur qui, lorsqu'il est arrivé sur un site, a eu l'opportunité de pouvoir engager le dialogue. Tout simplement parce qu'on va faire de cette expérience une expérience mémorable et, au-delà de ça, un avantage concurrentiel. Le fait de savoir qu'en allant sur ce site, je vais pouvoir trouver quelqu'un, potentiellement à toute heure de la journée, qui va pouvoir me conseiller dans mon achat, c'est un facteur différenciant. Donc, c'est un facteur qui fait que le visiteur revient plus facilement acheter et que, par ailleurs, toute l'expérience de conseil permet aussi de faire de la vente complémentaire, etc. Au global, ce qu'on observe en termes de performance, c'est une conversion 10 fois supérieure lorsqu'elle est conseillée, lorsqu'elle est assistée à un acte d'achat en self-service. Donc, quand on a un taux de conversion moyen de 2% sur son site en self-service, on va avoir un taux de conversion moyen de 20% lorsqu'on vient assister le visiteur dans son acte d'achat. Et on voit bien la puissance, finalement, de l'humanisation de cette expérience d'achat en ligne.
Je crois que vous avez plus de 2000 marques que vous accompagnez aujourd'hui. Assez de recul pour observer, j'imagine, les bonnes pratiques comme les mauvaises. Un top 3 des deux, ça donnerait quoi ?
Alors... les mauvaises pratiques, si on commence par ça, les mauvaises pratiques, et donc ça nous amènera nécessairement mécaniquement aux bonnes, hein. Les mauvaises pratiques, elles vont tourner autour de la surautomatisation. Hein, donc c'est,
je prévois toutes les réponses automatiques aux questions habituelles qu'on me pose.
C'est l'utilisation extrême de chatbots, de réponses automatisées. Qui malheureusement n'apporte pas toujours entièrement satisfaction et très rarement dans une logique d'avant-vente et de conseil. Voilà. C'est l'indisponibilité, c'est-à-dire que je cherche à prendre contact, mais personne n'est là pour me répondre alors qu'on m'a proposé cette mise en relation. C'est un temps d'attente trop long qui va être supérieur à 3 minutes, etc. Donc, c'est un discours et des réponses qui sont trop formatées. C'est une discontinuité par rapport à mon historique d'échange passé, le fait qu'on ne me reconnaisse pas, qu'on ne sache pas qui je suis, pourquoi je suis venu, qu'est-ce que j'ai déjà demandé, etc. Voilà. Et donc, les bonnes pratiques, c'est tout l'inverse. Voilà. C'est d'être disponible, d'être extrêmement réactif, voire même d'être proactif. Voilà, de détecter proactivement que quelqu'un est dans un besoin d'aide et d'engager la conversation.
Dans ce cas-là, tu as une petite fenêtre qui va s'ouvrir, qui va popper comme ça sur ton écran et commencer la conversation avec toi de manière spontanée ?
Exactement. Voilà, ça peut très bien être le fait que tu te connectes sur le site web. On sait que tu as passé commande, que tu aurais dû être livré depuis 48 heures. Plutôt que de te laisser le soin de trouver un formulaire et de prendre contact avec nous pour savoir où on est ta commande, proactivement, voilà, on va engager la conversation et immédiatement on va pouvoir informer celui ou celle qui va te répondre de ton contexte pour pouvoir t'apporter la réassurance dont tu as besoin.
Je reviens sur ce moment où il n'y a plus la mascotte, le génie, où on est passé du produit au service, et donc parler d'humain. C'est quoi qui a été le déclic ?
Est-ce qu'il y a eu un déclic ? Je crois que le principal...
Ou beaucoup de concurrents qui arrivent sur l'outil peut-être, et donc il faut ajouter quelque chose à l'offre ?
On est présent sur un marché depuis 10 ans. Et ce marché, il a connu une mutation extraordinaire. Quand moi, j'ai fondé iAdvise, le taux d'équipement, il était inférieur à 2%. Voilà. Donc, on avait moins de 2% des e-commerçants, des marques qui proposaient une expérience humanisée par chat. Aujourd'hui, là, au moment où on se parle, début 2021, en fonction des régions, ce taux d'équipement, il est entre 70 et 90%. Donc, ce qui était un peu... considéré comme un gadget, un truc nice to have, est devenu un standard. Voilà. Et ça s'est fait progressivement, naturellement. L'élément déclencheur, à proprement parler, c'était la capacité de démontrer que c'était que ce type de technologie, ce type d'approche était en mesure d'offrir un retour sur investissement. C'était économiquement viable. Voilà. Et ça s'est produit avec la signature de Fnac.com. Un an plus tard, quand Daniel Courcol, le directeur relations clients, a pris la parole devant une salle de 500 personnes au salon du e-commerce pour expliquer qu'il avait réussi à obtenir un retour sur investissement sur la solution en moins de 3 mois, et qu'il avait généré X millions d'euros de revenus incrémentaux. Et là, on venait de faire la démonstration qu'humaniser l'expérience d'achat en ligne était économiquement viable.
À ce moment-là, je reviens juste sur l'histoire. Vos premiers clients, comme celui que tu viens de citer, qui est Fnac, ils mettaient en avant leurs propres opérateurs de relations clients. Vous aviez déjà cette idée de créer la communauté qui va répondre aux acheteurs en ligne.
Alors, à l'époque, la vision de Fnac, c'est d'offrir l'expérience qu'on vient chercher en magasin. Donc, c'est le vendeur avec son gilet. D'ailleurs, sur les boutons, on avait le vendeur avec, ouais. avec son gilet.
Donc, voilà. Le passionné de disques, le passionné de livres qui va pouvoir répondre aux questions avec une connaissance approfondie finalement de son marché.
C'est exactement ça. Voilà. Et c'est la vision de Daniel Courcol à l'époque qui décide de travailler avec nous. Et effectivement, c'est des vendeurs de chez Fnac qui sont derrière pour pouvoir conseiller et répondre. L'idée de la communauté, en fait, elle a émergé avant la naissance d'iAdvise, quand j'ai travaillé chez Zlio, une boîte qui a été fondée par Jérémy Bérébi, qui à l'époque était une plateforme qui permettait à tout à chacun de pouvoir créer sa boutique en ligne sans avoir de produits à vendre. Et donc, on avait des centaines de milliers d'e-commerçants en herbe qui étaient des passionnés. Et à l'époque, on avait dû faire face à un défi majeur où l'ensemble des boutiques du réseau ont été sanctionnées, déclassées de Google, et où la réflexion avait été justement de travailler sur l'amélioration de la transfo et du panier moyen avec le peu de trafic restant, et de le faire en permettant à ces e-commerçants en herbe passionnés de pouvoir apporter leurs conseils. Voilà. Et ça, c'est resté quelque part, et ça a germé beaucoup plus tard.
Parce que tout à l'heure, tu as mentionné le terme de chatbot, donc je rappelle, c'est donc des chats automatisés, bots, hein, comme des robots, et vous mettez en opposition par rapport à cette pratique qui est la human touch, donc le facteur humain ou le fait que ce soit une vraie personne qui réponde à des questions en ligne. Est-ce que du coup, ce sont vraiment maintenant des concurrents forts, les chatbots ? Est-ce que vous en proposez aussi dans votre palette de services ? Et est-ce que finalement, avec l'intelligence artificielle, on va arriver ou pas ? De manière un peu visionnaire, mais enfin, on parle beaucoup maintenant d'arriver à processer le langage naturel, de pouvoir finalement imiter de plus en plus ou prétendre qu'il y a un humain et que ce ne soit plus forcément des réponses standardisées et complètement automatisées. Donc, est-ce que ça, c'est une menace, une opportunité ? Enfin, est-ce que c'est une tendance ?
Bon, il y a beaucoup de questions. Alors, d'abord, en 2010, quand on fonde iAdvise, il y a un acteur de pointe sur le marché qui s'appelle Virtuose, qui depuis a été racheté par Nuance, qui faisait ce qu'on appelait non pas des chatbots à l'époque, mais des AVI, agents virtuels intelligents. Voilà. Donc on arrive à un moment où finalement ces chatbots sont déjà installés, sont déjà déployés. D'ailleurs, Fnac était client à l'époque, mais avec une promesse assez incomplète. C'est-à-dire que l'automatisation fonctionnait très bien sur des sujets récurrents, des sujets plutôt typés support client. Voilà. Et sur toute la dimension et la partie avant-vente, on conseille dans le choix de mon produit, conseille dans mon acte d'achat, besoin de réassurance, l'humain avait beaucoup plus de légitimité et de puissance, et c'est ce qui a permis à Yodvice de trouver son chemin et de creuser son sillon et de contribuer à cette révolution qui aujourd'hui fait que 80-90% des sites web proposent ce type d'interaction. Aujourd'hui, en 2021, 45% des contacts des conversations qui ont lieu sur la plateforme, 45% sont partiellement ou totalement automatisés. Voilà, donc, à près de la moitié. Donc vous l'avez compris, cette automatisation, elle est intégrée au sein de nos solutions. Nous, notre vision, c'est de réussir à prendre le meilleur des deux mondes. Voilà. Faire en sorte que le robot intervienne là où il est pertinent de le faire intervenir. Par exemple, sur des phases de qualification de ton besoin, toutes ces questions récurrentes de collecte d'informations. L'humain a assez peu de valeur ajoutée à poser ces questions récurrentes. Le robot sait très bien le faire. Voilà. Sur la base de l'ensemble de ces questions, ensuite, on va pouvoir...
Mais ça oblige quand même l'humain qui répond au robot à qualifier de manière très précise son besoin. Par exemple, je veux acheter un appareil photo et donc... chacun avec son langage ou son vocabulaire va être plus ou moins expert et peut-être répondre de manière imparfaite. Est-ce que ça, c'est le robot qui est capable aujourd'hui d'analyser dans le langage exactement la catégorie ou le besoin du client ? Ou est-ce qu'assez vite, il faut quand même aussi le requalifier par une intervention humaine ?
Aujourd'hui, le robot le fait plutôt bien. Voilà. Avec un degré d'erreur, mais qui est un degré d'erreur acceptable. Voilà. Le robot va aussi très très bien fonctionner sur des sujets, je le disais, de support client. Des sujets assez basiques, de suivi de commandes, où notamment on a besoin d'être interconnecté avec le CRM, de pouvoir apporter du coup des réponses extrêmement rapides. De fait, on va ensuite pouvoir, quand c'est nécessaire et quand c'est pertinent, escalader et transférer cette conversation, soit par exemple à un conseiller du service client qui va pouvoir, à un niveau 2, niveau 3, traiter la demande, résoudre le problème de son client. Ou si on est sur un sujet justement de conseil, d'achat, de retour d'expérience, bah, l'envoyer vers un expert issu de notre communauté IBU, par exemple. Et tout l'enjeu et toute la valeur ajoutée, c'est l'orchestration de la conversation. Enfin, pour terminer de répondre à ta question, est-ce que demain, finalement, ce bot ou ces bots vont remplacer l'humain ? Techniquement, probablement. On va y arriver. Est-ce qu'on y est ? En réalité, on en est encore très loin. Les chatbots, la résurgence des chatbots, elle vient de 2017, à un moment où Facebook décide de lancer Messenger for Business, donc de permettre aux entreprises d'être présentes sur Messenger et de dynamiser la stratégie de pénétration de Messenger pour faire concurrence aux Asiatiques, à WeChat. Et la vision... évidemment de Facebook, c'est de dire si on fait rentrer les business, on va avoir des flux de conversation et donc des coûts de traitement associés. La solution, ce sera les chatbots. Voilà.
Écoute, tu me fais une transition presque parfaite avec la question de notre partenaire Madinès et sa journaliste Anne Taffin. Tu parlais de Facebook qui évidemment détient Messenger, qui détient aussi WhatsApp. On l'écoute.
Vous avez un message.
Bonjour. Vous faites partie depuis peu du club très sélect des partenaires officiels de WhatsApp, qui n'en compte que 50 au monde, dont 10 en France. Comment avez-vous fait pour approcher ce géant américain ?
Comment est-ce qu'on a fait pour approcher ce géant américain ? En l'occurrence, dans les équipes, on a un ancien de Facebook qui est venu travailler sur toute la partie animation de notre réseau de partenaires. On a fait partie, on a eu la chance de faire partie des premières entreprises à justement intégrer Messenger for Business. Et de fil en aiguille, on a évidemment déroulé les cas d'usage. Et pour la petite anecdote, il y a 2 ans, on nous avait proposé d'intégrer le programme BSP en alpha de WhatsApp, donc de faire partie de ce petit cercle encore plus fermé qu'aujourd'hui.
Qu'est-ce que c'est BSP ?
Business Service Provider, voilà. Toutes ces sociétés-là, finalement, cherchent des partenaires qui vont être les relais dans la diffusion, l'adoption de leur technologie, puisqu'en fait, l'enjeu, souvent, c'est d'amener une solution qui va pouvoir permettre d'industrialiser le traitement, faire le contrôle d'accès, gérer toute l'automatisation, la base de connaissances, etc. etc. Et ça, ce n'est pas leur métier. Voilà. Et donc, ils viennent brancher derrière des solutions comme celle d'iAdvise pour pouvoir opérer le traitement, piloter les stratégies conversationnelles, etc. Et donc, on avait cette opportunité-là. Et à l'époque, on était encore très synchrone dans le traitement, très orienté live chat et pas messaging. La différence, justement, c'est la dimension asynchrone du messaging. Et ça a beaucoup d'impact dans le reporting, la mesure de la valeur, etc. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et à l'époque, on se dit qu'on n'est pas suffisamment prêt. Et donc, on refuse d'intégrer le programme. Voilà. Et pendant de longs mois, on s'en est mordu les doigts, évidemment, puisqu'on était régulièrement sollicité pour pouvoir opérer des déploiements et dans l'incapacité de le faire. Voilà. Et là, enfin, ça y est, WhatsApp a réouvert ses portes et assez naturellement, donc on a été certifié, on a réintégré ce club fermé.
Ça consiste en quoi, ce que tu peux faire pour une boîte sur WhatsApp? Moi, typiquement, là, je reçois un message du Monde, où je crois qu'on est des milliers à recevoir ce message WhatsApp du Monde, où finalement, je crois peut-être répondre, mais je ne sais même pas si quelqu'un le lit. Mais en tout cas, il n'y a qu'une conversation, Le Monde, à laquelle personne, en fait, n'interagit à l'intérieur. C'est ça ou il y a d'autres options?
Ouais, c'est une très bonne question. Donc, il y a deux approches. Là, on est sur une approche push. Hein, voilà, c'est-à-dire que Le Monde, finalement, va publier, pousser du contenu. Donc, c'est une approche média. C'est pas à proprement parler une approche conversationnelle. Nous, on n'est pas spécialiste du push. Voilà. On n'est pas spécialiste dans la diffusion de messages. On est spécialiste sur des sujets qui sont orientés sur la conversation. Voilà. Donc, ce qu'on souhaite faire et ce qu'on fait, c'est de permettre aux marques de pouvoir être présentes là où leurs clients sont présents. C'est des millions et des millions d'utilisateurs de WhatsApp en France. Et donc, c'est de permettre, si vous le souhaitez, en tant que client, de pouvoir, au travers de WhatsApp, entrer en relation avec la marque pour pouvoir engager la conversation avec elle, traiter un problème de service client.
Comme on le fait sur le site aujourd'hui, c'est que le canal qui change. Du coup, je me permets une question, mais c'est peut-être compliqué pour toi d'y répondre, mais récemment, il y a eu le sujet WhatsApp, les conditions d'utilisation avec beaucoup de gens qui sont partis sur d'autres messageries. Est-ce que ça vous impacte? Est-ce que c'est une peur qui n'était peut-être pas légitime? Toi qui connais peut-être aussi les dessous des informations qui peuvent être demandées, je crois que typiquement...
Question touchy.
Ouais, je sais, mais je pose la question. Et je te laisserai évidemment y répondre avec les contraintes que tu peux avoir.
Bon, ce sujet de data, évidemment, il a occupé l'actualité avec des communications officielles de Facebook qui tendent à rassurer les utilisateurs. On n'a pas de parti pris sur la question. Moi, mon métier, c'est d'intégrer le plus possible de points de contact et donc d'applications qu'utilisent les usagers, les clients, et de permettre aux marques, si elles le souhaitent, d'être présentes sur ces points de contact pour pouvoir permettre à leurs clients d'engager la conversation. Voilà. Le sujet de la data, moi, dans ma préconisation, dans les conversations que je peux avoir justement avec des execs et des comités de direction des marques avec lesquelles on travaille, c'est de leur dire... De toute façon, mon conseil, c'est de maîtriser votre expérience conversationnelle, maîtriser votre data. Et aujourd'hui, iAdvise, mais bien d'autres acteurs, permettent d'offrir toute la stack technologique pour que les marques puissent être, j'ai envie de dire, propriétaires de leur expérience conversationnelle. Et donc proposer une expérience conversationnelle sur leur application mobile, sur leur site mobile, sur leur site web, de la façon dont elles le souhaitent. En maîtrisant leur data et leur expérience. Voilà.
Parce qu'en réalité, au-delà du débat spécifique sur la question de WhatsApp, il y a effectivement une question un peu plus large qui est sous-entendue dans ce que posait Thomas, qui est celle aussi de la data que vous avez en votre possession. Alors là, tu sous-entendais que vos clients en fait sont propriétaires des data, mais j'imagine que la base de données potentiellement de iAdvise implémente énormément d'informations, les additionnent les unes aux autres sur les besoins des clients, quels sont leurs centres d'intérêt, etc. Donc tout ça, ça fait partie de la vie intime aussi, hein, du client. Donc c'est régi, j'imagine, par un environnement réglementaire précis. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça? Est-ce que ça fait partie de votre business model aussi d'utiliser cette donnée ou pas?
Non, on n'utilise pas cette donnée. On a une donnée qui est silotée, voilà. Et on n'en fait pas un usage transverse. On n'est pas propriétaire de cette donnée, ce sont nos clients qui possèdent cette donnée. Nous, on agit comme agirait un hébergeur. Néanmoins, on a des obligations réglementaires, notamment le RGPD, qui fait qu'on s'assure de la bonne conformité quant à la confidentialité de ces données. On aurait pu, hein, c'est une très très bonne question, parce que la question elle s'est posée de nombreuses fois. On aurait pu construire un business model autour de l'usage et l'exploitation de la donnée à laquelle on a accès. Et elle est incroyable, cette donnée. Parce que
ça permettrait de faire du ciblage, du reciblage, plein de d'actions commerciales proactives.
Ouais, on équipe la très large majorité du top 100 e-commerce. On travaille avec la moitié du CAC 40. Donc, on suit les transactions, les ventes. On suit évidemment... les questions, les échanges, donc les thématiques qui peuvent être plus ou moins brûlantes. Et puis, on descend jusqu'à l'échelle de l'individu qui, parfois, peut rentrer dans son intimité. Donc, nous, notre vision, voilà, ça a toujours été, en tout cas, de préserver ça et de ne pas en faire un modèle économique, de ne pas venir servir un modèle économique, mais au contraire, d'en faire une force dans notre proposition de valeur auprès des marques, en leur disant, mais en fait, on vous laisse propriétaire de vos données et de votre expérience conversationnelle.
Alors, ça fait deux épisodes qu'on fait du Next 40 où je dis qu'on ne posera pas la question confinement, cette rubrique confinement que j'ai hâte de mettre de côté, ne sachant toujours pas si nous partons pour un troisième. Olivier, ayant évoqué le fait que vous aviez fait beaucoup pendant cette période, je vous propose quand même de passer quelques instants pour en discuter.
Je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme. Chez vous, chez vous, chez vous. Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons.
Alors c'est vrai qu'on a souvent ce débat entre Thomas et moi, est-ce qu'on parle du confinement, de l'impact de la crise? Quand on a lancé le podcast 40 nuances de Next, c'était en plein confinement. Aujourd'hui, on passe de confinement à couvre-feu, etc. Mais enfin, en tous les cas, l'impact est certain sur le marché, notamment du e-commerce, puisque quand il y a des commerces fermés, il y a évidemment un mouvement de vaste communicants vers le e-commerce. Et puis c'est vrai qu'aussi, on est dans un monde où on parle de distanciation sociale, et ce terme parfois nous effraie, parce que ça veut dire qu'on s'éloignerait les uns des autres. Alors il faudrait probablement changer le vocabulaire, mais justement vous arrivez avec une solution digitale, mais humaine. En quoi ça interagit ou en quoi cette crise, du coup, a pu peut-être créer des opportunités pour vous?
Alors, cette crise, elle a créé beaucoup d'opportunités pour iAdvise. Et je dis ça aussi en étant parfaitement conscient des impacts sanitaires et des contraintes liées à cette crise. Mais comme tu l'as dit, elle a dopé le e-commerce. Voilà. Il y a une statistique publiée par Bank of America et le département américain du commerce aux États-Unis sur le taux de pénétration du e-commerce. En 2010, à la création d'iAdvise, il était de 6%. Juste avant le début du premier confinement aux États-Unis, ce taux de pénétration était à 16%. Voilà, donc en 10 ans, 10 points. Au bout de 10 semaines de confinement, on était sur un taux de pénétration à 27%. Donc, en fait, en 10 semaines, on a connu la croissance des 10 années précédentes. Ouais. Voilà. Donc, en fait, on s'attendait à ce qu'il y ait un effet de vase communicant, qu'il y ait un effet de croissance. Ça a été en réalité une révolution. Voilà. Et nous, on surfe sur cette tendance-là parce que nécessairement, on est branché sur le site des marques, des e-commerçants, des retailers qui, d'un seul coup, connaissent ce boom de fréquentation. Qui, par ailleurs, dans ce boom de fréquentation, à une population qui, auparavant, n'achetait pas en ligne ou qui n'achetait pas certaines catégories de produits et qui, donc, naturellement, est en recherche de conseils, d'accompagnement, etc.
Et qui, au-delà de ça, en ce moment, a peut-être besoin d'autant plus de contacts humains. Je ne sais plus avec qui j'ai échangé hier, mais qui me disait que c'est environ 5 millions de personnes en France qui n'ont que 3 contacts sociaux sur une année, ce qui est assez démentiel. Oui. Voilà, je voulais partager, ça m'a bluffé hier, je voulais le partager avec vous aujourd'hui.
Il y a beaucoup de problèmes d'isolement et évidemment le confinement ou la crise renforce des situations de détresse. Donc on peut imaginer que vous pouvez apporter aussi une réponse parcellaire, enfin d'une certaine manière, mais à cette question-là.
Bah ouais, on n'a jamais été autant. Paradoxalement, je trouve que pendant cette période, on n'a jamais été autant connectés les uns aux autres. Moi, j'ai jamais été autant connecté aux autres entrepreneurs, par exemple en tant que dirigeant.
C'est vrai.
C'est-à-dire, au début de la crise, je passais X coups de fil par jour, on échangeait parce que tout le monde cherchait à comprendre ce qui se passait chez l'autre, comment réagir, comment s'adapter, quelles solutions trouver, ouais. etc. Voilà, parce qu'il y avait pas de précédent, donc on avait besoin de se benchmarker en temps réel, j'ai envie de dire. On n'a jamais été connecté aux autres. Ça se voit d'ailleurs. On parlait de Messenger, de WhatsApp. Donc fourni par Facebook pendant la crise, c'est plus 50% d'usage, plus 50% sur un média et un mode de communication qui est déjà largement adopté, hyper répandu. Donc ça démontre toute l'intensité d'interaction et de conversation qu'on est allé chercher pendant cette période-là. Donc évidemment, comme on peut l'imaginer, on est à la croisée de ces deux dynamiques, hein, la révolution et le boom du e-commerce, et puis de l'autre, l'hyper-accélération aussi du messaging et de la conversation. Voilà. La résultante, c'est sur le dernier trimestre de 2020, on a un peu plus de 100% de croissance sur les volumes de conversations qui ont lieu sur la plateforme, avec une marque qui est iAdvice, qui est déjà bien installée. Hein.
Olivier le disait en préambule, vous avez mis en place des offres spécifiques pour vos clients à l'occasion de cette période qu'on a tous connue. A priori, les offres précédentes correspondaient quand même aux besoins actuels. Il a fallu réinventer quoi de plus pour être au plus proche de leurs attentes ?
Ouais, alors c'est une très bonne question. Là, je parlais du côté très positif en termes d'impact sur la partie e-commerce. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi beaucoup de clients dans le voyage. Le transport, c'est des clients comme Air France, comme Disney, comme Robocop.
Vous l'avez fait annuler, repositionner, décaler.
Qui
sont en situation de crise dramatique pour certains. Donc, ils vont même disparaître pour certains. D'ailleurs,
C'est un bouillon, hein. c'est terrible. Ouais.
Un ancien invité de 40 nuances de Next, Olivier Gouat d'October, a lancé un podcast sur cette verticale et sur ces acteurs qui souffrent aujourd'hui. Voilà.
Très compliqué parce qu'en fait... plus de revenus, hein, plus de rentrées, mais toujours autant et même plus de contacts clients. Hein, parce qu'assez naturellement, les clients s'inquiètent de savoir s'ils peuvent reporter, comment ça va se passer, est-ce qu'ils vont se faire rembourser, etc. Donc c'est tout le paradoxe. Plus de business, mais une explosion des contacts. Ces clients, on a dû les accompagner en déployant justement des solutions d'automatisation pour faire face à l'afflux de conversations, etc. Au global, sur l'approche et l'offre, le sujet, c'était comment est-ce que on fait sauter tous les verrous d'engagement. C'est-à-dire qu'on est une boîte SaaS et les boîtes SaaS aiment bien engager leurs clients dans la durée, hein, parce que tout l'enjeu, c'est de réussir à prédire la récurrence de revenus et puis de MRR, de diminuer le churn.
Le MRR, je rappelle que c'est le Monthly Revenue Rate, donc c'est le revenu mensuel d'une entreprise qui vend des logiciels, notamment des solutions technologiques.
Oui, tout à fait, merci.
Le churn ?
Le churn, c'est le taux d'abandon de clients, puisque régulièrement, on a des clients qui rentrent dans la base de données des nouveaux clients et puis certains qui partent, et donc on mesure ce ratio.
Je connaissais le petit Robert, on connaît le grand Olivier.
Pardon, t'as coupé. Voilà, donc ouais, on a des clients qui partent. C'est tout le problème et l'enjeu de notre métier. Donc, en fait, on a simplifié l'accès. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on va créer une offre sans engagement et on va travailler sur un modèle économique à l'usage, vraiment, pour faire en sorte que... Parce que pendant ces périodes-là, ce qui s'est passé, c'est quand même que le métier... a perdu le pouvoir et c'est la finance qui a repris le pouvoir. La finance et le juridique. Et donc, on a fait sauter tous ces freins pour justement permettre de fluidifier, de permettre à des entreprises de pouvoir accéder, déployer avec plus de facilité nos solutions. Voilà. Et puis, on a proposé, comme énormément d'entreprises, hein, de mettre à disposition gratuitement nos solutions pour toutes les organisations gouvernementales, non gouvernementales, qui avaient pour objectif de pouvoir aider, assister la population pendant cette crise. Ça pouvait être sur toutes les démarches administratives en ligne, etc. et de permettre justement c'est tous ces, j'ai envie de dire, primo-accédants de services en ligne de bénéficier d'une assistance humanisée dans leur parcours client sur Internet. Voilà. Donc on a mis à disposition, et je crois que c'était le sens et le mouvement de l'écosystème tech, hein, de se mettre au service des autres lorsque c'était pertinent et utile.
On passe à l'avenir ?
Oui, je pense qu'on peut rentrer dans le monde d'après, on y est déjà. Alors sur le monde d'après, c'est ce monde qui est, on parle d'après le confinement, d'après cette crise, mais du coup on peut aussi se projeter, enfin plus ou moins loin selon vos projections, et au-delà d'ailleurs de la société iAdvice, ce qui nous intéresse, c'est aussi ton regard d'entrepreneur sur ce qui se passe. Moi, je voulais revenir un tout petit peu, quand on parlait tout à l'heure sur les chatbots, de l'intelligence artificielle et aussi de ce monde globalisé. Donc, on est dans un monde très globalisé, celui des startups, où il faut avoir de l'hypercroissance, aller être mondial, ce que vous êtes déjà en grande partie. Et puis, en plus, ce monde aussi un peu déshumanisé de l'intelligence artificielle. Est-ce que tu vois, à un moment donné, tu disais qu'il y a effectivement la possibilité maintenant d'avoir des robots automatisés, mais est-ce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle va complètement changer la donne, ce qui est un petit peu différent des premiers chatbots dont tu parlais, qui étaient des questions-réponses relativement simples. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de complexité, y compris dans le fait de pouvoir répondre dans n'importe quelle langue, reconnaître la langue, traduire, etc. Et donc, est-ce qu'il y a une efficacité qui pourrait finalement, à un moment donné, changer complètement la relation ou l'interface homme-machine ?
Je crois que l'enjeu... c'est l'industrialisation de la conversation. C'est-à-dire comment est-ce qu'on passe d'une période où on a proposé la conversation à peu de ses clients, et notamment aux clients qui ont une valeur ajoutée, parce que c'est des clients VIP ou c'est des clients qui vont réaliser une transaction dont le montant est très élevé ou la marge importante. On rentre dans une ère où on veut faire en sorte que la conversation soit un standard et qu'elle soit proposée à tous. Et ça pose nécessairement la question de la viabilité économique au regard des people, des gens qu'on doit mettre derrière pour pouvoir répondre. Et c'est là, à mon sens, que l'intelligence artificielle entre en jeu. C'est comment est-ce qu'elle vient compléter les humains qui derrière viennent répondre pour leur permettre non pas de répondre à une, deux, trois personnes en même temps, mais aujourd'hui déjà à 10 personnes en simultané, et peut-être demain... une centaine de personnes en simultané, en faisant en sorte que les humains interviennent comme, j'ai envie de dire, il y a un vieux métier dans l'informatique qui était le métier de pupitreur, hein, qui étaient des gens qui étaient devant des écrans et qui regardaient des lignes de code s'exécuter pour s'assurer que les programmes tournent bien et qu'intervenaient quand il y avait un plantage ou un problème. Ben finalement, demain, on aura peut-être des conseillers qui auront ce rôle, j'ai envie de dire, de pupitreur auprès de bots et qui seront là pour s'assurer que les bots apportent bonne réponse.
Ajoutée, ouais.
Voilà. Et quand le bot ne sait pas répondre, de pouvoir répondre, lui apporter la solution. Ou quand l'humain est plus pertinent pour pouvoir apporter une réponse, de le faire. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore une forme de défiance vis-à-vis de la machine et de l'intelligence artificielle. Et je ne sais pas si ce comportement sera amené à disparaître. Et je pense qu'on...
On est dans la science-fiction déjà, c'est bien.
je ne sais pas si on est dans la science-fiction, mais tous les ans, on organise un événement qui s'appelle Conversation. Et il y a 2 ans, je crois, on avait Alexandre Lebrun sur scène. Alexandre, justement, c'est l'un des fondateurs de Virtuose, revendu à Nuance, qui a ensuite fondé Vitaï, qui a été racheté par Facebook, voilà, et qui est devenu le papa de M, l'assistant virtuel de Facebook. Non, exactement. Voilà.
Ça, c'est Louis
Donc, c'est quelqu'un qui est dans l'IA conversationnelle depuis toujours. Et finalement, il nous disait, mais même si un jour, c'est possible que l'IA remplace l'humain et se fasse passer pour lui, est-ce que c'est souhaitable ? Est-ce que, mais au-delà de l'impact économique, sociétal, hein, de...
Tu parles d'un point de vue éthique ou d'un point de vue...
Ouais, d'un point de vue éthique, c'est-à-dire, est-ce que moi, en tant que client, qui vais te confier de l'argent à toi, l'entreprise, est-ce que j'ai envie de parler à un robot ? Est-ce que je me sens considéré si en face de moi, tu mets un robot ?
Voilà. Oui, mais si je ne le sais pas, finalement, si je n'en ai pas conscience, qu'est-ce que ça change ?
Ben, d'abord, c'est problématique. Je pense que c'est important quand même qu'on en ait conscience et qu'on puisse le dire.
Non, d'un point de vue éthique, je suis d'accord. Mais finalement, d'une certaine manière, si je ne peux plus faire la différence en tant que citoyen ou consommateur, je ne m'en rends pas compte, quoi.
Mais est-ce que c'est souhaitable ?
T'as raison. Tu reposes bien la question.
Voilà. Est-ce que c'est souhaitable ? Je ne le crois pas. Je crois que ce qui est important, c'est qu'il y a un enjeu de transparence. Et demain, j'ai besoin de savoir si je suis en train de parler à un robot ou à un humain. Voilà. Parce que je souhaite savoir qui j'ai en face de moi. Voilà. Et dans tous les cas, il y a un enjeu de considération et il y a un enjeu, je pense, qui est aujourd'hui très complexe à adresser, qui est de l'ordre de l'intelligence émotionnelle. Voilà. On y parviendra sans doute. Et là, effectivement, on est dans la science-fiction. Mais cette intelligence émotionnelle, c'est quand même une caractéristique et une composante humaine majeure. Voilà. Et on s'est tous retrouvés dans des situations face à un robot en incapacité de pouvoir nous apporter la solution
qui
dont on a besoin.
Qui te rend encore plus dingue.
Ou pire, en face d'un humain qui est en fait en train de lire le script qu'un robot lui impose.
C'est tout à fait la même chose.
Voilà. Ouais. Et on cherche tous la même chose, c'est-à-dire l'intelligence émotionnelle, c'est comprends-moi, qu'on comprend
la
situation dans laquelle je suis, le désarroi dans lequel je peux être, l'inconfort dans lequel je peux être, le paradoxe, la situation paradoxale que je suis en train de vivre. Et ce que j'attends de toi en tant qu'humain, c'est de faire preuve d'intelligence émotionnelle, de créativité, dans ta capacité à pouvoir apporter une solution à mon besoin. Voilà.
Il y a un autre sujet que je voudrais mettre sur la table, qui est en ce moment, mais qui nous interroge aussi sur la relation demain entre les marques et leur public. Vous avez dû voir ce compte Instagram surperformer ces derniers jours, Balance ta startup, avec toutes les questions que ça pose. De ce que j'en ai compris, l'idée c'était de rappeler certaines exigences du droit du travail dans la relation entre l'employeur et ses collaborateurs. Donc avec ce qui est dénoncé, on peut entendre que c'était important de les mettre sur la table. On peut aussi s'interroger sur le fait que ce soit relativement anonyme, que c'est difficile de s'assurer que ce qui est dénoncé l'est réellement, partir du principe que ceux qui sont mécontents parlent plus que ceux qui sont contents. Et du coup, je sais qu'il y a des startups du Next 40 qui ont été épinglées, d'autres qui ont été au contraire particulièrement défendues et de manière très positive. Je serais curieux de savoir, en tant qu'entrepreneur qui dirige une boîte de plus de 200 personnes, comment tu appréhendes des sujets comme celui-ci où la communication devient crise en un post Instagram. C'est un peu long comme question.
Non, mais on parle ici de ta marque employeur aussi, et du coup, de parfois aussi de la caricature qui peut être faite du monde des startups, puisque là, on est en train de parler du monde d'après. Donc, quel est le modèle de travail qu'on a envie de pousser ou de mettre en avant ?
Voilà, on parle du monde de l'image et de l'instantanéité qui est devenue la constante. Voilà, c'est-à-dire que c'est long de faire une entreprise, c'est long de construire une image, c'est long de faire une marque employeur, c'est long de créer une histoire collective. Et effectivement, elle peut être détruite très rapidement. Elle peut être détruite à juste titre. Mais effectivement, tu as raison, ça pose la question de l'anonymat, de la pertinence, des commentaires qui peuvent être adressés. C'est difficile. Je crois que le plus difficile, c'est aussi pour l'entrepreneur qui est exposé à ses avis, à ce qui est partagé.
Il faut être bien câblé quand même. Enfin, typiquement, je me mets à la place de certains entrepreneurs. Du jour au lendemain, ta boîte est descendue en flèche. Toi-même, tu es descendu en flèche. Même si tu es assez sûr de ce que tu as bien fait, peut-être aussi, tu as moyen de sauter par la fenêtre.
Mais est-ce que par exemple, vous avez eu, vous, ou est-ce que tu peux en parler, enfin, après, ça peut être un sujet tabou, mais est-ce que vous avez eu aussi des problèmes, peut-être parfois, des mauvaises retombées presse d'être dénigré sur les réseaux sociaux ?
Oh, ça a dû nous arriver nécessairement. Comme toutes les boîtes, on est présente sur Glassdoor et il y a des commentaires qui sont publiés régulièrement. quand je les lis, il y a des choses sur lesquelles je me dis, bah oui, évidemment, bien sûr, là, là-dessus, on n'est pas bon, et il est quand même temps de réagir.
Et donc, ça peut être plutôt louable d'avoir ces remontées d'informations qui ne se font pas, des fois, naturellement.
Mais en fait, on s'attend à avoir... C'est-à-dire qu'il y a une typologie de commentaires qui peuvent être très constructives. Voilà. C'est-à-dire que très conscient des avantages offerts par la boîte, et puis aussi lucide sur... les inconvénients, mais si tu passes un peu de temps à lire les commentaires des boîtes du Next 40, tu retrouves à peu près toujours la même chose. C'est des boîtes qui grandissent trop vite, qui sont pas assez structurées, le management et la hiérarchie, c'est du copinage, le management n'est pas suffisamment compétent, etc. Bon, mais en fait, c'est la rançon du succès, c'est-à-dire que c'est des boîtes qui organiquement vont trop vite, qui font monter des gens qui ont été performants, experts dans les équipes. C'est des gens qui consacrent la plupart de leur vie à leur travail, et donc nécessairement des affinités se créent au sein de ces entreprises. Donc en fait, ça ne vient que peindre le tableau de la réalité de ces modèles de ces modèles d'entreprise. Et puis de temps en temps, il y a un commentaire, un avis qui est destructeur, mais dont la volonté est de détruire. Et pourquoi quelqu'un vient détruire ? Il vient détruire parce qu'il a été blessé. Et pourquoi est-ce qu'il a été blessé ? Pour X raisons. Parce qu'il n'a pas été entendu, il n'a pas été compris, parce qu'on ne lui a pas donné raison, parce qu'il a vécu une frustration, parce qu'à un moment donné, il n'a pas été, il n'a pas été là où il aurait souhaité être. Et il y a ce besoin, je crois, qui est terriblement humain, de pouvoir évacuer.
Après, c'est vrai que ce compte Instagram dont parlait Thomas, qui est Balance ta Startup, ça vient aussi d'une idée qui était, je crois, Balance ton agence.
Mais qui se déroule sur Balance ta maison, voilà, Balance donc, un peu tout.
Et donc c'est un peu, alors ça peut ressembler à un certain nombre de mécontentements qui existent et qu'on peut retrouver dans la vraie vie. Quand on parle de la crise des gilets jaunes, c'est pas un compte Instagram, mais c'est des gens qui descendent dans la rue et qui expriment aussi sans doute un certain nombre de frustrations. Alors après, ça crée des débats. Mais quelles sont les réponses qu'on peut apporter en tant qu'entrepreneur? Et est-ce que toi, tu as, y a des pratiques finalement managériales, de ressources humaines ou autres dont vous êtes fier chez Advice, des choses que tu voudrais peut-être promouvoir ou des essais que vous avez faits dans la façon d'organiser la vie et le travailler ensemble?
La mission originelle d'Advice, c'est d'humaniser l'expérience client en ligne. Donc cette dimension et cette composante humaine, elle a toujours été importante, c'est-à-dire que ceux qui ont rejoint cette aventure l'ont fait avec justement la conviction d'amener cette touche humaine, cette chaleur. C'est des gens qui sont attachés justement à l'humain, à la conversation, au contact, à la relation avec l'autre. C'est des gens qui n'ont par exemple pas fait le choix d'aller, bosser dans une fintech ou dans le milieu de la finance pour optimiser des algos de bidding. Voilà, c'est des gens qui font un choix qui est différent. Et donc, cette composante et cette dimension humaine, je crois qu'elle a toujours été très présente chez iAdvise. Et qu'en tout cas, moi, j'ai toujours cherché à faire en sorte de libérer les énergies. Voilà. Les collaborateurs sont des gens qui sont, dans leur vie personnelle, des entrepreneurs. Voilà. Ils font des projets. Ils sont présents souvent dans une vie associative. Ils sont eux-mêmes engagés. Ils s'endettent.
Et est-ce que vous favorisez etc. ça ou tu laisses une place à ces initiatives?
On favorise ça. L'exemple que je donne souvent, qui est anecdotique, mais on attribue à chacun de nos collaborateurs une cagnotte individuelle qu'il peut utiliser individuellement ou collectivement pour mener une initiative en interne ou tourner vers l'externe, comme bon lui semble, sans évidemment de validation du manager. Cette idée, elle est née d'un email un jour que je reçois de l'un de mes collaborateurs qui me dit « Je voudrais envoyer un bouquet de fleurs à une cliente qui s'est fait hospitaliser. Voilà. » Je me suis dit « Mais pourquoi est-ce que je reçois un email qui me demande ça, en fait ?» C'est une super idée. Et en fait,
ça devrait se faire sans passer par moi.
Il ne faut surtout pas que ça passe par moi. Donc, en fait, voilà. Et donc, on a alloué à chacun... un montant qui lui permet de pouvoir ensuite prendre ce type d'initiative. Et ça a donné naissance à des initiatives incroyables où les gens se sont réunis, parfois pour faire des choses très banales, ou aller soutenir une cause, et parfois pour mener des projets créatifs assez surprenants. On a vu un jeu de société se créer comme ça, un jeu de cartes et de pions, qui permettait en fait aux nouveaux arrivants de découvrir la boîte. Voilà. Donc on jouait avec la tête des managers sur les cartes, ça permettait de se moquer un peu d'eux, mais aussi en rigolant, de découvrir en fait le fonctionnement des services, le rôle de chacun, toute la linguistique interne, etc. quoi. Voilà. Bon, ça c'est étonnant parce qu'en fait le projet d'un seul coup naît comme ça tout seul. Il est financé sur la base de cette cagnotte. Il vient servir l'enjeu de l'entreprise. Il permet aujourd'hui moi de raconter cette histoire. Voilà. Donc c'est une dimension très positive. Bon, il y a des trucs beaucoup plus anecdotiques comme ça où un jour j'ai l'un des commerciaux qui réalise que le tout premier client d'iAdvise, vraiment l'ID numéro 1 dans notre base de données, est présent à Nantes, passé sur un salon, et donc il décide d'organiser un événement surprise. Le client pensait qu'il allait venir déjeuner dans les bureaux. En fait, les mecs avaient acheté un tapis rouge, c'était aide d'honneur, champagne, etc. Et le mec est rentré dans les bureaux comme ça, avec une aide d'honneur et ce tapis rouge, et on m'avait demandé de l'attendre au bout du tapis rouge. On lui avait donné son cadre avec son logo. Alors, évidemment, c'était une toute petite boîte, ça faisait partie de nos tout premiers clients. Et on lui avait donné son cadre et son logo pour qu'il aille l'accrocher au milieu de nos plus belles références, qui sont les boîtes du CAC 40.
Génial.
Bon, ça c'est génial, c'est-à-dire que c'est une initiative spontanée comme ça, et quand on fait confiance aux gens et qu'on leur permet de bénéficier des moyens de le faire, bah, il se passe des choses étonnantes.
Eh bien, c'était un plaisir de commencer seulement à découvrir Julien Hervouet et iAdvise. Je vous propose de passer à la partie 2 de nos échanges dans 40 nuances de Next, juste après ce jingle.
40 nuances de Next.
The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.